Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International. On est le mardi 30 juin, dernier jour du mois. Donc, ça veut dire aussi qu'on fait la dernière émission de la saison, bien sûr. On sera de retour le 15 septembre, mais on vous le redira tout à l'heure sur l'antenne de Principes Actifs, bien sûr. Et donc, c'était notre foire aux livres dimanche dernier. Il y avait Claire Lys qui voulait vous dire quelques mots à ce propos-là.
Eh bien oui, donc notre foire aux livres s'est passée pas sous la canicule. Bon, il y avait quand même du soleil l'après-midi, mais on a échappé aux orages et on a eu du beau temps. Et merci à toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous, qui viennent chercher des livres pour l'été, signer nos pétitions. Et un grand merci aux bénévoles qui sont venus. Donc des bénévoles d'autres associations, comme le Secours catholique ou le CFED Asti ou les Restos du Cœur. Donc je vais les nommer. Il y avait Armand, Salimata, Martial, Patrick, Françoise, Jean-Pierre. Merci aux jeunes du lycée Sangor, Lénaëlle et Alexandra. Merci à Flora merci à Flora qui est une future antenne jeune. Alors c'est pas le même lycée ?
Si, c'est Cédar.
Même lycée
aussi. Cédar Sangor aussi.
Et puis Mina et Ronan qui font partie du groupe mais qui habitent beaucoup plus souvent sur Rouen et qui sont venus nous rejoindre pour la foire aux livres.
Un petit coucou rapide, mais
voilà.
Toujours apprécié.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a passé une bonne journée au soleil, et puis il y a pas mal de gens qui sont venus nous acheter des livres, comme d'habitude. Et donc on a eu effectivement, comme disait Claire Lys, beaucoup d'aide, et ça c'est tout à fait sympa.
On a même un monsieur qui est venu exprès de Soissons, qui s'appelle Didier, et qui nous a acheté plein de bouquins, parce qu'il fait toutes les foires aux livres, et il cherche les foires aux livres d'Amnesty.
Alors voilà. Je vais dire aux auditeurs, aux autrices, moi je m'appelle Didier, mais c'était pas moi.
Non, je sais, c'était pas toi.
Bon, voilà. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus nous aider. C'était très sympa et très utile, puisque c'est aussi ce qui permet de nous financer. Je vous rappelle qu'Amnesty International, Évreux, comme tous les groupes d'Amnesty et toutes les structures d'Amnesty, fonctionnent sans aucune subvention de qui que ce soit. Voilà, donc c'est le public qui nous finance à travers toutes ces manifestations. Pour commencer l'émission, c'est pas un scoop que je vais vous donner, c'est qu'on sort d'une période de canicule, là, très généralisée, très historique, très longue. Tous les records de chaleur sur la France ont été battus et rebattus et re-rebattus d'un jour sur l'autre. Et donc, et puis on n'est pas à l'abri de retomber à nouveau dans une période de chaleur, si on en croit les bulletins météo en ce moment. Et donc, moi, je suis tombé. Alors, c'est pas un texte d'Amnesty, écrit par quelqu'un d'Amnesty, mais le contenu du texte, qui est assez ironique, pourrait très bien être co-signé par Amnesty International. C'était signé par une dame qui s'appelle Yamina Saeb, qui est ingénieure, qui est docteur en ingénierie énergétique, spécialiste des politiques énergétiques et qui est prof à Sciences Po et qui a participé à la rédaction du 6e rapport du GIEC qui est paru il y a quelques années. Et voilà ce qu'elle a écrit à Monsieur Emmanuel Macron. « Cher Emmanuel Macron, je vous écris de notre cave, seul lieu encore habitable dans notre immeuble parisien. Je relis votre appel à la prudence, à prendre soin des personnes âgées, des plus vulnérables comme des enfants, et à suivre l'ensemble des recommandations du gouvernement. J'en reste abasourdi. Je ne comprends pas qu'un président de la République puisse, une fois de plus, faire peser sur les frêles épaules des citoyens la responsabilité de les protéger, qui est la vôtre. Et je vous imagine sirotant un apéro, loin d'être mérité, dans une pièce climatisée de l'Élysée ou d'un autre palais de la République. Alors j'ai décidé de vous écrire. Cette lettre, vous ne la lirez probablement jamais. Qu'importe, seule l'écriture apaise un peu ma colère. Vous nous demandez la prudence. Mais la prudence de qui, monsieur le Président ? Celle des citoyens qui n'ont jamais voté pour 4 degrés de réchauffement ou celle d'un État qui, année après année, choisit de ne pas agir sur la cause. On ne se met pas à l'abri d'un climat que l'on continue de dérégler. On ne boit pas de l'eau pour réparer des décennies d'inaction climatique. Cette canicule n'est pas une fatalité météorologique. Elle est la conséquence directe et mesurée de votre décision de nous enfermer dans le capital fossile. Nous l'avons écrit noir sur blanc dans les rapports du GIEC. Vous le saviez, nous le savions tous. Ce qui nous accable aujourd'hui n'est pas une surprise. C'est un rendez-vous que vous, avec d'autres responsables politiques, avez choisi de ne pas honorer. Et que proposez-vous face à cela ? De nous adapter à une France devenue fournaise, comme si l'on pouvait s'adapter sans fin à un monde que vous vous obstinez à rendre invivable. Je vous écris enfin parce que je ne sais pas comment expliquer à un enfant de 6 ans que les adultes savaient et qu'ils ont préféré l'apéro à l'action. Je ne sais pas pour vous, moi je refuse de léguer à mon fils un pays où le seul refuge est le sous-sol et comme seule consigne, la débrouille. Nous finirons bien par remonter de notre cave, mais je n'oublierai pas qui m'y a laissé. Votre inaction climatique, cher Emmanuel Macron, celle qui vole à nos enfants le droit de vieillir sur Terre. Voilà, je trouvais quand même que ce texte était très très bien vu, très complet, et voilà. Et qui ne peut qu'engager tout le monde à agir avec toutes les ONG qui s'occupent de la question, dont Amnesty, mais pas que Amnesty.
Non.
Et encore une fois, il faut se bouger. Voilà. On va changer complètement de sujet. C'est Edith qui va vous parler de la venue en Europe des talibans.
Ouais, oui.
Vous en avez peut-être entendu parler. Bah, mais pour commencer... Oui, vas-y.
D'accord. Ouais, c'est ce que j'avais choisi de parler, effectivement, de cette venue très compliquée et on va dire qui me choque énormément des talibans à Bruxelles. Et ce matin, dans ma voiture, effectivement, je prends des fois ma voiture, même avec le réchauffement climatique, voilà, j'allais un peu plus loin, j'ai entendu la chronique de Charline Van Hennecker et on a décidé de vous la passer. Après, je reprendrai la parole.
Donc, c'est tout de suite.
Charline, alors, votre sujet du jour est brûlant. Il y a des talibans à Bruxelles. La semaine dernière, la Commission européenne a invité une délégation de 5 représentants du régime taliban en catimini.
Chut, Sonia ! Mais vous savez ce que ça veut dire en catimini ? Ça veut dire qu'il faut surtout pas que ça sache ! Ah ben voilà, maintenant c'est trop tard, c'est foutu, hein, bien joué ! Cela dit, comment ça s'organise une visite de taliban en catimini, c'est ça ? Au moment de briefer les agents de sécurité à l'aéroport de Bruxelles.
Alors aujourd'hui, on va faire comme tous les jours en empêchant des terroristes d'entrer sur le territoire. Sauf un petit groupe de 5, que eux il faut les laisser passer, ce sont nos invités. Des questions ? L'Europe les a invités pour négocier l'expulsion de 72 prisonniers afghans vers Kaboul. Donc ils ont été reçus comme n'importe quel autre dirigeant. Mis à part le fait qu'Ursula von der Leyen a dû se dessiner une moustache et dire qu'elle s'appelait Friedrich. Mais à part ça, le protocole est resté le même. Cela dit, s'ils oppriment les femmes dans leur pays, peut-être que quand ils sont à l'étranger, ils se comportent en véritable gentleman.
Friedrich.
Mais on ne sait pas, Sonia. On n'a pas essayé. Donc l'Europe, il y a 2 semaines, elle vote la mise en place de mesures drastiques pour expulser les réfugiés. Et dans la foulée, elle décide d'octroyer un petit visa des talibans. Voilà, un visa de 24 heures, hein, parce que quand même, ils sont sous le coup de sanctions de la Cour pénale internationale et sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Donc j'imagine qu'à la Commission, ils ont dû débrancher les portiques de sécurité à l'entrée. Ah bah sinon, ça sonnait dans tous les sens. Hein. Alors résultat, toutes les conditions sont réunies pour que Poutine vienne passer un petit midweek en famille à Bruxelles. En catimini ! En 24 heures, j'espère que les talibans en ont profité pour se balader un petit peu à Bruxelles. Un petit moule frites. Une croquette aux crevettes. J'espère qu'ils ont pu profiter du spa à l'hôtel. Ben alors, le choc culturel. Ils se sont dit, hey, vous avez vu ? Ici, les pierres, ils les utilisent pas pour la lapidation, ils font des massages avec. Et ils les chauffent avant, en plus. C'est bien ça, on va essayer en rentrant. Hein. Et faites attention à pas vous brûler. Hein. Oui, mais c'est un petit peu douillet, le taliban, je pense. Bref, les autorités européennes expliquent que c'était juste une réunion technique. Vu que les règles européennes en matière d'immigration sont de plus en plus inhumaines, ils se sont dit « autant faire venir des experts en barbarie ». De toute façon, quand tu mets le terme « technique » en diplomatie, ça minimise la rencontre. Hein. On le fait tous à notre échelle. Vous voyez. Pour vous donner un exemple, quand on invite des gens par courtoisie, mais qu'on n'a pas envie que ça s'éternise, plutôt que de proposer à dîner, on propose un apéro dînatoire.
La semaine dernière, tu m'as invité à un apéro dînatoire, Charline.
Ah, ouais. Bah, si tu veux, dimanche, je t'invite pour un brunch.
C'est pire.
Bon, écoutez, Daphné. Il y a plus grave dans la vie. Le régime taliban était invité au cœur de l'Europe, là, Daphné. Réagissez, bon sang. Ça, c'est grave. T'imagines un petit peu les négociations avec eux quand on dit tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. Ça n'est pas qu'une image. Je vais conclure. Oui. Pour espérer établir un dialogue constructif avec les talibans, la seule façon, je pense, c'est de se voiler complètement la face.
Aïe, aïe, aïe.
T'as intérêt à m'inviter à dîner. N'importe quoi, je suis payée pour n'importe quoi.
Avec Burkie en guest.
Voilà, c'était donc la chronique de Charline Vandenecker ce matin sur France Inter. Et donc,
je reprends. Alors, je vais pas. Voilà.
Bon, donc. T'as pas l'accent, toi ?
Non, j'ai pas l'accent. Et puis, j'ai trouvé que le texte, c'est ce qu'il disait. C'était la honte de recevoir les talibans à Bruxelles. La problématique des expulsions illégales des ressortissants talibans afghans. Qui doivent cesser, les personnes ayant besoin de protection internationale. Et alors, ce que j'avais vu aussi, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est que les talibans, là, ces gentils messieurs qui sont venus s'installer un peu à Bruxelles, même pour 24 heures, ils ont augmenté un petit peu les lois contre les femmes. Bah oui, il n'y en avait pas encore assez au niveau de l'Afghanistan. Donc, un petit florilège non exhaustif des derniers éléments du nouveau règlement pénal. Alors, les femmes ne sont considérées comme victimes de violences domestiques que lorsqu'elles ont subi une fracture ou des blessures visibles. Les femmes peuvent être condamnées à 3 mois d'emprisonnement si elles rendent régulièrement visite à des membres de leur famille sans autorisation de leur mari. Légitimation des mariages arrangés pendant l'enfance et restriction de la capacité des femmes et des filles à contester ou à quitter de telles unions. Voilà. Donc, on va dire que tout devrait être fait pour y mettre fin. Et on a parlé à un moment, c'est moi qui avais parlé à la radio il y a quelques mois, d'une jeune femme qui était réfugiée en France et qui disait « Ce qu'il ne faut jamais franchir, c'est la ligne de recevoir les talibans parce qu'on leur donne une légitimité et on oublie le sort des femmes. » Et ben voilà, c'est fait. Merci l'Europe.
C'est clair. Ce que tu viens de dire, Edith, ça me fait penser à ce qu'on disait à la dernière émission avec sur un autre sujet, avec Claire Lise, le vote à l'Assemblée nationale pour supprimer le code noir.
L'abrogation,
merci, je cherchais le mot. L'abrogation du code noir, qui, encore une fois, considérait que les esclaves noirs étaient des biens meubles, c'est-à-dire faisaient partie du mobilier. Et bien, pour les talibans, les femmes, c'est tout à fait assimilable à un bien meuble.
Et à partir du moment où on ne le fait pas remarquer aux talibans, c'est comme si comme elle dit, on se voile la face ou on l'accepte. Et tout ça pour envoyer des Afghans dans leur pays où on sait pertinemment qu'ils vont être considérés comme des traîtres à la patrie, si on peut dire patrie, et que leur sort va être excessivement compliqué.
Ouais. Puis moi, je répéterai encore une nouvelle fois, je le dis à chaque fois qu'on parle d'hommes qui oppriment des femmes de cette façon-là, de façon absolument insupportable, que de toute façon, ces hommes-là, moi, en tant qu'homme, ils me salissent. Ça, c'est clair. Voilà, on va changer de sujet. Clarisse, je voulais vous parler de. On l'avait déjà évoqué dans d'autres émissions, mais il y a pas mal de temps.
Mais justement, de la frappe on est aux 4 mois après.
C'est ça.
Après la terrible frappe aérienne sur l'école de Minab, l'établissement des responsabilités se fait attendre. Donc c'est la guerre, bien sûr, Iran-États-Unis. Voilà. Et ils avaient effectivement. Toucher une école qui a tué plus de 150 personnes, dont 120 enfants. Donc Amanda Klasing, directrice nationale des relations avec le gouvernement et du plaidoyer à Amnesty International États-Unis, a déclaré « 4 mois se sont écoulés depuis la frappe la plus meurtrière menée par les États-Unis contre des civils dans l'histoire récente. Nous ne sommes pourtant pas plus près d'obtenir de la part des autorités états-uniennes des réponses permettant d'expliquer pourquoi cela est arrivé et qui était responsable. Pourquoi cela prend-il si longtemps ? Le public et les familles des victimes méritent des réponses transparentes et l'établissement des responsabilités, et les familles doivent obtenir vérité, justice et réparation. Le président Trump a fait des déclarations contradictoires, Le Pentagone ne coopère pas avec le Congrès et les législateurs et le public sont de plus en plus excédés par les réponses répétitives du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et d'autres, selon lesquels cet événement continue à faire l'objet d'une enquête. Donc, Amanda Classing d'Amnesty International dit « Nous savons la chose suivante. L'armée des États-Unis est responsable de la mort de plus de 150 personnes dans cette attaque menée avec des missiles Tomahawk à guidage de précision contre une école où se trouvaient de nombreux enfants. Que le Pentagone ait utilisé l'intelligence artificielle ou non, lorsque cette école a été prise pour cible, il n'a très clairement pas appliqué toutes les précautions possibles afin de prévenir ou de limiter les dommages causés aux civils lors de cette attaque. Il ne fait aucun doute que les États-Unis auraient dû savoir que ce bâtiment était une école et non pas une cible militaire. Après la frappe, Amnesty International, les médias et d'autres organisations ont rapidement pu confirmer que ce bâtiment était une école, et ce, depuis des années. Le Pentagone, qui dispose de capacités et de technologies de collecte de renseignements largement plus avancées, était indéniablement capable de recueillir et de vérifier ces mêmes informations, ce qui aurait dû conduire à la décision de ne pas frapper l'école. Nous ne disposons par ailleurs toujours d'aucune information complémentaire sur la possibilité que l'intelligence artificielle ait été utilisée dans le cadre de la décision concernant la cible. Le président-directeur général d'Anthropic a reconnu dans un entretien accordé à l'agence France-Presse Bloomberg qu'il ne sait pas si ni comment le logiciel d'intelligence artificielle de son entreprise a pu être utilisé afin de sélectionner des cibles dans le cadre d'attaques menées par les États-Unis contre l'Iran. Mais il s'est hâté d'attribuer la responsabilité à l'armée, en particulier à un humain qu'il n'a pas nommé, chargé de prendre la décision finale en ce qui concerne les cibles. Malheureusement, l'horreur qui s'est abattue sur Minab n'est que le dernier exemple en date des homicides de civils perpétrés par l'armée des États-Unis depuis que Donald Trump et Pete Hegseth sont arrivés au pouvoir et ont fortement réduit au cours de l'année écoulée les budgets des programmes du Pentagone visant à limiter les atteintes aux civils dans le cadre d'opérations militaires. Il nous faut des réponses maintenant. L'armée a déjà eu 4 mois pour expliquer ce qui s'est passé. Le Pentagone doit terminer son enquête en urgence et rendre ses conclusions publiques. L'enquête doit prendre en considération la collecte et l'analyse de renseignements par l'armée, ainsi que les décisions relatives aux cibles, les précautions prises et l'utilisation d'intelligence artificielle. Lorsque les éléments de preuve suffisants existent, les autorités compétentes doivent traduire en justice toute personne soupçonnée d'être pénalement responsable. Le Pentagone doit aussi rétablir les mesures d'atténuation et de prise en charge des préjudices causés aux civils et garantir le respect du droit international humanitaire dans le cadre des opérations militaires, notamment lorsque l'IA est employée dans le but de prévenir de futures violations. S'en abstenir reviendrait à essayer d'étouffer une violation grave du droit international humanitaire et constituerait une trahison des victimes et des rescapés de cette terrible attaque. Donc des civils iraniens ont subi de graves préjudices lors de salves et de frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël entre le 28 février et le 7 avril 2026. Selon les chiffres officiels, ces frappes ont fait 2362 morts, dont 383 enfants, et plus de 32 314 blessés, tout en causant des destructions et des dégâts considérables aux infrastructures civiles. Dès le jour de la frappe à Minab, dans la province du Hormozgan, le 28 février 2026, le public et les législateurs des États-Unis ont réclamé une enquête. Le 10 mars, une porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé que des enquêtes sur l'attaque contre l'école étaient en cours et que le ministère de la Défense diffuserait un rapport complet. La semaine dernière, Donald Trump a déclaré que l'enquête se poursuivait et que la frappe n'était pas intentionnelle, et il a invité Pete Hegseth à répondre aux questions sur le sujet. Tandis que l'on reste sans réponse de la part du Pentagone, la commission sénatoriale sur les services armés a adopté sa version de la loi de prérogatives de la défense nationale qui limite les fonds alloués au secrétaire Hexette pour ses déplacements jusqu'à ce qu'il diffuse les conclusions de l'enquête sur la frappe contre l'école de Minabe ainsi que celle des deux enquêtes sur deux cas distincts de dommages civils au Yémen et la version intégrale et sans montage de vidéos de frappe contre des bateaux dans les Caraïbes et dans le Pacifique Est. Parallèlement, Dario Amadeo, le PDG d'entreprise, donc, a déclaré que si Claude, le logiciel d'IA, parce qu'il a un joli prénom, hein, de son entreprise a été employé dans cette frappe, il ne s'agit pas d'une violation des lignes rouges établies pour son utilisation, parce que c'est un humain qui a pris la décision, pas Claude.
Ben oui, bien sûr.
Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez fou, quoi, parce qu'en on peut toujours attendre les résultats de l'enquête. Je pense.
Tout à fait. Et puis bon, juste pour un petit commentaire, quand l'actualité effectivement nous parle de mort absolument insupportable d'enfants dans la société civile, quel que soit le pays, tout le monde s'en indigne à juste titre. Mais là, il faut rappeler quand même que c'était 150 enfants qui ont été tués. Suite à un bombardement qui était tout sauf justifié, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'était une école de petites filles.
C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas de comment dire il n'y a pas lieu de s'apitoyer dans un cas et pas dans l'autre. Enfin, s'apitoyer, c'est pas le bon terme, mais je cherche mes mots ce soir. De se révolter.
C'est
voilà,
c'est la chaleur.
Il n'y a pas lieu de se révolter dans un cas et pas dans l'autre. Il faut se révolter par toutes les atteintes aux droits des enfants. On va passer
à la pause musicale.
La première pause musicale, on se retrouve juste après.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. On vient d'écouter une chanson qui a plus de 10 ans maintenant, mais qui est toujours d'actualité, surtout par rapport à la canicule. C'était facile de faire le lien. C'est une chanson de Mickey 3D et ça s'appelle Respire. Et donc, c'est Claire Lise qui avait la parole juste avant la pause musicale et qui va la garder pour la
oui,
suite.
Que le langage, ça s'apprend, la parole, ça se prend.
C'est ça.
Alors, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la progression des mouvements anti-genre en France. Donc, dans un rapport publié ce 25 juin, Amnesty International dresse un panorama inédit des mouvements dits anti-genre, de leur financement, de leur réseau et de leur stratégie d'influence. Donc, Amnesty décrit un mouvement transnational, structuré, qui cible les droits des femmes et des personnes LGBTI+, et dont la France constitue désormais l'un des principaux points d'ancrage en Europe. Et ça, ça fait froid dans le dos.
C'est la même chose.
Tu vas me laisser faire ma chronique,
mais
toi ?
Oui, oui, oui. Bon, nous allons reparler de la même chose
c'est
après.
C'est pas possible, voilà. Donc, au lendemain de la publication du rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur les réseaux masculinistes, Amnesty donc, tire à son tour l'alarme. Dans ce rapport, Amnesty élargit le constat à l'échelle internationale. Des attaques contre les droits à l'avortement, aux campagnes de harcèlement visant les associations féministes et LGBTI+, en passant par le financement d'organisations conservatrices et les offensives législatives menées dans plusieurs pays. Donc Amnesty estime que les mouvements anti-genre ont changé d'ampleur. Longtemps perçus comme des mobilisations dispersées, ils constitueraient désormais un réseau transnational, structuré, doté de moyens financiers importants et d'une stratégie politique assumée. Donc c'est une internationale conservatrice contre les droits des femmes et des personnes LGBT qui est en train de se former. Donc dans cette étude, Amnesty met en lumière ce qu'elle décrit comme une offensive coordonnée, donc contre les droits des femmes et des minorités sexuelles dans de nombreux États, fondations privées, organisations religieuses, groupes militants et influenceurs participeraient à un même mouvement visant à remettre en cause les avancées obtenues ces dernières décennies en matière d'égalité de genre, de droits reproductifs et de reconnaissance des personnes LGBTI+. Donc le mouvement anti-genre est une menace bien réelle qui prend une ampleur inédite et inquiétante en France, affirme Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France, dans un communiqué de presse. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces pour lutter contre les discours et les acteurs hostiles aux droits des femmes et des personnes LGBTI+. Selon Amnesty, les mêmes mécanismes se retrouvent d'un pays à l'autre. Remise en cause du droit à l'avortement, restriction des droits des personnes transgenres, attaque contre les programmes d'éducation à la sexualité ou encore tentative de redéfinition des normes internationales relatives aux droits humains. Les États-Unis de Donald Trump, la Hongrie de Viktor Orban, la Russie, la Slovaquie, la Turquie ou encore le Ghana sont cités parmi les exemples les plus emblématiques de ces offensives. La France, deuxième financeur européen des réseaux anti-genres, parce que l'un des principaux enseignements du rapport concerne la place occupée par la France dans cette dynamique internationale. On a souvent tendance à considérer que ces mouvements sont extérieurs à la France. Mais le pays est loin d'être hermétique, souligne Lola Schulman, chargée du plaidoyer justice de genre chez Amnesty International France. L'étude décrit un écosystème composé d'associations, de fondations, de groupes politiques et de collectifs militants qui partagent des objectifs communs, malgré des modes d'action parfois différents. Parmi les principaux acteurs identifiés figurent le milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Sterrin, l'entrepreneur qui a fait fortune avec Smartbox, qui est également à l'origine du projet Périclès. Donc, Périclès, c'est patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. À vos souhaits.
C'est ça.
Destiné à soutenir une nébuleuse d'initiatives politiques, médiatiques et associatives visant une victoire idéologique, électorale et politique de l'extrême droite. Donc, Amnesty International souligne également le rôle de la Fondation Jérôme Lejeune, active dans la lutte contre l'avortement, ou encore celui d'organisations comme Parents Vigilants ou Némésis. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de Némésis. Régulièrement présente dans les débats publics et proche de certaines formations de droite radicale. On voit une augmentation rapide des financements privés qui permettent d'outiller, de financer et de renforcer de nombreuses structures engagées dans cet agenda politique. Donc, observe Lola Schulman, et le mouvement anti-genre instrumentalise la morale et la religion dans l'objectif de refondre la société dans un idéal conservateur et patriarcal. Donc, au-delà des financements, le rapport détaille les modes opératoires employés par ces mouvements. La diffusion de récits anxiogènes, qui constituent l'un des principaux leviers identifiés. Les droits des LGBTI, les politiques d'égalité ou encore l'éducation à la sexualité sont régulièrement présentés comme des menaces pour l'enfance, la famille ou les valeurs traditionnelles. Le mouvement anti-genre instrumentalise la morale et la religion dans l'objectif, effectivement, d'aboutir à un idéal conservateur et patriarcal et de revenir sur les droits humains acquis de longue date. Donc ces discours prospèrent notamment sur les réseaux sociaux, où les campagnes de harcèlement ciblant des militantes féministes, des associations ou des personnes LGBTI+, se multiplient. Amnesty évoque également le développement des sphères masculinistes et incel, accusés de normaliser les violences contre les femmes et dans certains cas d'encourager le passage à l'acte. Sur le terrain, plusieurs centres LGBTI+, ont été victimes ces dernières années de dégradations ou d'actes d'intimidation à Lille, à Lyon, à Rennes, Le Mans ou Maubeuge. Pour Amnesty, donc, ces actions participent d'une stratégie plus large visant à affaiblir les structures de défense des droits. Les associations féministes et les centres LGBTI subissent une double peine. Simultanément, leurs subventions diminuent face à ces offensives ciblées et largement financées. Elles voient simultanément leurs subventions diminuer, voire disparaître. Et donc cela entrave dangereusement leur capacité d'intervention, ce qui est précisément l'effet recherché. Donc face à ce contexte, Amnesty International formule plusieurs recommandations destinées aux autorités françaises. Donc notre organisation appelle notamment à renforcer les financements publics des associations de défense des droits des femmes et des personnes LGBTI+, à mieux protéger les défenseurs des droits humains contre les menaces et campagnes de harcèlement et à condamner systématiquement les attaques visant ces publics. Il faut rendre visibles ces mouvements, dénoncer leurs méthodes et comprendre les liens qui les unissent, insiste Lola Schulman. Tant qu'ils resteront sous-estimés, leur influence continuera à progresser. Et donc Amnesty plaide également pour une diplomatie féministe plus ambitieuse dans les instances internationales afin de contrer les tentatives de remise en cause des normes de protection des droits humains. Malgré la progression de ces mouvements, Amnesty souligne néanmoins l'existence de résistance. L'initiative européenne « Ma voix, mon choix », la mobilisation de centaines de milliers de personnes lors de la marche des fiertés de Budapest en juin 2025, malgré son interdiction, ou encore la constitutionnalisation de l'IVG en France, figurent parmi les exemples mis en avant. La justice de genre n'est pas un idéal abstrait, ni un enjeu secondaire, conclut Anne Savinel-Barras. Il s'agit d'une condition essentielle au respect des droits et à la sécurité de toutes les personnes. Voilà.
Ok, mais effectivement, on est sur une pente glissante, y compris en France, par rapport à tous ces droits. Et effectivement, il faut rester vigilant et surtout, il faut se bouger. Surtout, il faut se bouger. On n'est jamais réduit à l'impuissance. Et je crois que...
Oui, voilà, je vais dire...
Elle a fait des grands gestes qui étaient quand même voilà, pendant que je faisais mon article.
On va tout vous dire, mais Claire-Lise avait intitulé son article un peu différencié. Et moi, celui que dont je voulais vous parler, c'est le même... mais distillé d'une autre façon. Donc, elle a eu la primauté. Je vais juste rajouter...
Moi, c'était un article complet qui s'appelait comme ça.
Non, allez-y.
Moi, c'est un article aussi complet, mais qui s'appelle comme si.
Vas-y.
Non, donc, tu as vraiment tout dit. Il y avait un petit peu plus de... d'informations dessus. Et moi, ce qui me semble important par rapport à ce que tu dis, Didier, c'est la jeunesse. Oui. Parce que là, c'est vraiment cette cible, et cette cible par rapport au TikTok, par rapport au Instagram, par rapport à ces vidéos. Et comme on sait que la jeunesse ne regarde plus la télé, n'achète plus les journaux, n'écoute plus la radio, ils sont complètement... Les jeunes, et là en particulier, puisqu'on parlait plutôt du masculinisme, donc les garçons, sont aussi eux-mêmes en grande difficulté parce qu'ils n'ont plus de liens et de textes qui peut les faire rêver pour après. Donc ces jeunes-là, je ne sais pas si vous avez vu le jeune influenceur américain qui est venu pour essayer de Paris, qui se fait des mâchoires carrées parce que c'est, semble-t-il, l'identité masculine la plus importante. Donc les jeunes, ils sont aussi très très fragiles. Alors on parle de santé mentale, mais là on parle aussi d'endoctrinement. C'est carrément ça. C'est vraiment autre chose. Et c'est sur ce public-là qu'il faut vraiment agir et essayer de leur ouvrir les yeux. Je pense que les adultes sont un peu plus estomaqués de ce qui se passe. Enfin, moi, c'est mon cas. Se dire, mais attends, c'est pas possible que ça prenne de cette force-là. Et aussi les filles. Parce que ça veut dire qu'un jeune, moi, j'ai entendu une émission, un jeune garçon qui est embrigadé dans ces trucs-là, il peut commencer à exercer son masculinisme et son non-genre sur sa mère, sa sœur, et des choses comme ça qui peuvent devenir violentes. Et c'est pour ça aussi que... Il y a le service de renseignement qui est très soucieux et qui dit que la radicalisation des jeunes représente une grave menace terroriste en France. Et d'un autre côté, on a les filles, parce que je crois que le mouvement, c'est le mouvement des femmes traditionnelles. Alors en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais, donc ils se disent, mais oui, mais c'est trop bien d'être à la maison, d'avoir des enfants, de ne rien faire, d'être sous la coupe de ce gars qui a ce grande mâchoire carrée et qui est tellement beau que je craque pour lui. Donc c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... sur l'article que tu as dit, qui était effectivement décortiqué, allez quand même le voir, il est sur la page Amnesty, qui donne la décortication, on va dire, du, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas mal.
Ça se dira.
Du rapport d'Amnesty et qui va en même temps avec le rapport du Sénat. Et j'ai vu une interview sur 28 minutes Arte de la sénatrice de Lyon qui fait partie et qui elle aussi a une parole très, 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 très importante et très, très libre. Et il faut vraiment résister à ces montées de discours et les déconstruire. Vraiment, les déconstruire. Donc, pour les déconstruire, il faut les comprendre.
Et c'est quand même pas par hasard que par exemple, Stérin, quand même, qui est un gars qui est foncièrement, qui finance les mouvements d'extrême droite, etc. C'est pas par hasard que ce sont ces milieux-là qui financent toutes les, de toute façon, les médias, qui financent les influenceurs, qui financent toute l'influence qu'il peut y avoir sur la pensée pour les personnes, pour les endoctriner vers ce...
On retrouve derrière aussi des mouvements extrêmes droitmistes. Juste pour Stérin, donc il a des écoles hors contrat, faut quand même le savoir. Quand on voit des choses en France qui se passent, c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de tout à fait calculé. Et lui, il rêve d'avoir plein de bébés blancs et européens.
Oui, blancs si possible, oui, bien sûr.
Voilà. Ah bien sûr, et puis alors surtout pas d'avortement.
Il doit penser que c'est la seule couleur humaine acceptable d'être blanc.
Et Jérôme Lejeune aussi, comme ce que tu as dit aussi.
Mesdames, parlez bien dans vos micros.
Oui, c'est parce qu'on parle entre nous, parce qu'on a eu les mêmes envies de parler, donc c'est quand même
j'ai
étonnant
bien
aussi.
Que vous étiez
tu sais, je regardais mon texte, puis sur le côté, parce que j'ai quand même une vision périphérique, je voyais Edith qui faisait plein de grands textes. Qu'est-ce qu'elle fait là, faire le moulin à vent.
Non, mais c'est vrai que toutes ces répressions, toutes ces régressions, effectivement, nous préoccupent tous. tous et toutes et tous. Donc je comprends bien que la discussion soit animée. Ça, c'est pas.
On
c'est
avait
pas
envie d'en parler.
On avait parlé déjà.
Mais comme on est à la radio, il faut parler dans
on ouais, mais c'est un débat. On va dire un débat entre nous.
On en avait déjà parlé des mouvements masculinistes en réaction à MeToo. Oui. Ils sont devenus hyper violents aux États-Unis en réaction, parce que c'était fort aussi, toutes les déclarations, le mouvement MeToo. Et donc, ça a démarré de là, en fait, en réaction, en se disant, mais attends, les meufs, là, elles ne vont pas commencer à nous,
voilà,
nous, nous embêter avec leurs droits.
Au passage
on peut quand même les violer comme on veut, quoi.
Et puis, là, on va passer... À moins que tu aies encore un...
Non, j'arrête. Alors, je vous dis d'aller voir sur le site d'Amnesty et l'article de Claire Lise et moi, là, la façon un peu plus schématique, avec des infos, mais c'est les mêmes. Et c'est tout à fait important à connaître.
Et donc, avant de passer la seconde pause musicale qu'on va vous passer, elles sont en train de se faire des signes. Et donc, on va vous passer la seconde pause musicale. On n'a pas l'image à la radio, on n'a que le son. Et donc, juste pour rebondir sur ce que vient de vous dire Claire Lise, ce qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit, et ça, ça va encore être... Après la pause musicale, je vous... Dans la suite de ce qui vous a été dit par Claire Lise, je vais vous parler en quelques mots d'un article qui paraît aussi dans la chronique sur la violence en Indonésie contre les homosexuels. Et donc, ça fait le lien. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, toutes les régressions qui nous sont proposées par Sterrin, compagnie, enfin, etc., ces retours à l'ordre moral dans tous les mauvais sens du terme, ça ne peut engendrer qu'une société de violence. Ça ne peut passer que par la
et
violence.
Les femmes, c'est inévitable. C'est la moitié de l'humanité.
Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est aussi insupportable. Deuxième pause musicale.
Ils m'ont arrêté une nuit où le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis planqué comme un renard d'un atterrissage d'un avion dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé au fond des corridors, travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police. Silencieux, au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si Jacques Delors, c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Et musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors,
travailler
jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police, silencieux, au bord du précipice.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Bernard Lavillier et Tikenja Fakoli. Un titre qui s'appelle « Question de peau ». Et il est inutile de vous dire à quel point ce titre, effectivement, nous parle, nous, en tant que militants des droits humains. Voilà, tout ce qui est
en
dit.
En tant qu'humain, on va dire. Oui. Parce qu'on n'a pas besoin de militer pour que ça nous cause.
Oui, non, mais d'accord. Oui,
non, non, mais oui, mais oui, mais il ne faut c'est pas vrai. Se limiter.
Donc, Clarlys vous a parlé, effectivement,
du
retour des anti-droits contre les LGBT et de tout ce qui va avec. Encore une fois, ça ne peut amener qu'une société basée sur la violence. Et pour l'illustrer, il y a un article qui est paru dans la dernière chronique et qui parle effectivement de la répression des homosexuels dans une province d'Indonésie, laquelle province Aceh. Ça s'appelle Aceh ou Aceh, je ne sais pas comment on prononce. Donc voilà. Et donc ça commence comme ça. Alors je vais vous lire le premier témoignage qui est un petit peu dur, qui est un petit peu dur à entendre. Hein, je suis désolé. C'est pas très cool, mais bon, ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait révélateur de ce qui peut se passer si jamais on se laisse dévier sur ce genre de répression. Le 26 août 2025, la vie d'un jeune homme bascule. Cory Usmi, 20 ans, reçoit 76 coups de canne, un châtiment corporel infligé uniquement parce qu'il est homosexuel. La scène se déroule sur la place Taman Sari, au cœur de la capitale provinciale, Banda Aceh. Ici, loin des plages touristiques, une interprétation rigoriste de la charia, la loi islamique, s'applique. Et dans cette province de 5 millions d'habitants, un lourd silence entoure les violences contre celles et ceux considérés comme « différents ». Entre guillemets. Peu osent prendre leur défense. Nous retrouvons Cory Usmi 2 mois après la journée la plus traumatisante de sa vie. L'entretien a lieu sur le parvis en carrelage blanc de la place Taman Sari, exactement là où il a été frappé. Il se revoit monter sur l'estrade, revêtu de la tunique blanche des parias. Il entend encore les ricanements du public venu assister au supplice. Il se souvient de sa honte, de son sentiment de culpabilité. Son bourreau, une femme, comme le veut la coutume, est encagoulée, masqué et habillé d'une tunique marron. Dans sa main, une canne en bois d'un mètre. Dès les premiers coups, Cory ferme les yeux. Un sifflement sec, le claquement de la canne sur son dos. Encore et encore, 76 fois. Il veut disparaître. Ses vertèbres craquent, son visage se crispe, ses jambes cèdent. Les hématomes mettront 9 jours à s'estomper. Une humiliation supplémentaire gravée sur son corps. Son supplice sera diffusé largement. Des caméras de chaîne pro-gouvernementale le filment chaque flagellation comme une cérémonie parfaitement orchestrée. Dans la province d'Aceh, l'homosexualité est criminalisée depuis plus de 20 ans. Alors voilà, je vais tourner la page pour lire un petit peu la suite de l'article, je ne vais pas tout vous lire. Mais donc, effectivement, voilà à quoi ça peut ressembler, une société qui reprime l'homosexualité. Est-ce qu'on a envie de ça ? Je ne le crois pas du tout. Après, il y a un autre homosexuel qui a été dans l'article, qui a été arrêté par la police et qui dit quelques mots sur son séjour dans le commissariat de police. Alors, il nous raconte, donc cette personne nous raconte cet épisode mâchoire serrée. Ils m'ont dit, c'est lui qui parle, ils m'ont dit que je méritais la castration. C'est les policiers qui parlent. Ils m'ont dit que je méritais la castration comme un animal. Je suis un humain. Avant d'être envoyé en prison, à Pisse, c'est son nom, et placé 50 jours dans une cellule délabrée. Les policiers le passent 7 fois à tabac. Le 27 février 2025, il est jugé à huis clos en 12 minutes. Il reste muet en état de choc. Verdict, 82 coups de canne, tout comme son compagnon. Le lendemain, sa peine est exécutée sur l'esplanade de Taman, là où Cory sera abattu 6 mois plus tard. Apis conserve en mémoire la silhouette de la femme bourreau. Elle a été informée du nombre de coups apportés quelques secondes avant le châtiment. Au 20e coup, elle accorde au condamné une courte pause, un verre d'eau, un pansement sur le sang qui coule. Alors le vice-président de l'État en question, là, donc de l'État d'Aceh, Amir Kalis, il détaille aux gens qui ont fait l'article, il détaille les peines encourues. Selon lui, les personnes condamnées pour crimes homosexuels ont de la chance. Elles peuvent choisir entre 100 coups de canne ou 10 mois de prison. Il compare même la flagellation à une petite correction en mimant le mouvement. Voilà, donc, encore une fois, ça laisse malheureusement rêveur dans le mauvais sens du terme. Après, le dossier, il est effectivement je regarde la pendule, il est effectivement assez long. Et il y a quelques mots, et je m'arrêterai là, quelques mots qui est dit par un des responsables très haut placés du gouvernement de cette province en Indonésie. Il s'appelle Malik Mahmoud Al-Haytar. Il est le gardien des traditions et du droit coutumier dans cette province d'Aceh. Et voilà ce qu'il dit. Après, donc interviewé aussi par les journalistes qui ont fait l'article. Après une heure d'entretien, il se montre plus disert encore, insistant sur la nécessité de corriger physiquement les homosexuels. Depuis les premières flagellations publiques en 2017, il insiste sur le fait que ce châtiment ne distingue ni classe ni richesse. Le bâton ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Il remet la dignité de chacun à sa place. On les aide en les corrigeant. Et ils ne recommencent pas parce qu'ils ont honte, soutient-il, tout en reconnaissant que certains fuient la province. Et il dit « ce n'est pas une grande perte ». Il nous invite même à relativiser, rappelant que Singapour, ce qui est à côté, utilise aussi la flagellation, mais en prison, pas en public, comme nous. Amnesty International rappelle que ce châtiment reste intrinsèquement cruel, inhumain et dégradant et constitutif de torture au regard du droit international. Et bien sûr, notre ONG demande l'abrogation des châtiments liés à la loi islamique locale. Bon, après, mais on n'aura pas le temps. Je voulais vous dire aussi quelques extraits d'une interview, et ça conclut ce dossier, d'une interview d'un professeur aux États-Unis qui travaille à l'université de Montclair, qui s'appelle Arnaud Kurz, et qui explique effectivement de façon plus détaillée comment la société civile, même dans ces pays-là, peut lutter contre toute la violence qui découle de cette répression des droits des LGBT. Bon, je vais vous renvoyer en fait au dossier qui est publié, hein, j'ai vu aujourd'hui.
Sur le site d'Amnesty.
Sur le site d'Amnesty, effectivement, il est en première page. C'est le même dossier tiré de la chronique. Je ne peux que vous y renvoyer. Et surtout, signez aussi toutes nos pétitions. Il y en a plusieurs, enfin, il y en a au moins une, peut-être deux, je ne sais plus, sur le site d'Amnesty par rapport à la répression des LGBT. C'est ce que tu voulais dire.
Oui, et ça. Puis, redire aussi qu'en Afrique, de toute façon, ça continue aussi la répression, que ce soit au Sénégal, en Ouganda. On a vu que les lois se durcissent de plus en plus à nouveau par rapport aux personnes homosexuelles ou lesbiennes. Voilà.
Tout à fait. Et donc, on choisit entre le respect des droits de tous les gens, quels qu'ils soient, et c'est ce que nous, on pense à Amnesty et qu'on soutient à Amnesty, ou on ouvre la porte à la violence et ce type de violence dont je viens de vous citer quelques exemples. Je ne pense pas que ça fasse envie à grand monde.
Petite bonne nouvelle.
Oui, une petite bonne nouvelle tout à fait avant de finir.
Voilà, donc ça se passe au Vietnam, on a dû vous en parler, mais il y a déjà longtemps, parce que Dan Dinh Bar, il a été emprisonné, 5 ans en prison, il a entamé en prison 3 grèves de la faim, il a eu un nouveau-né qui est né avant, au début de son emprisonnement, qu'il n'a pas vu grandir, donc un petit enfant qui doit avoir 5 ans maintenant. Son crime, c'était se battre pour la préservation de l'environnement, il a été condamné, puisqu'on ne pouvait pas le condamner pour sa part, et pour évasion fiscale à la suite d'un procès qualifié d'arbitraire par les experts des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est libre. Il est libre, mais il a quand même fait sa peine de prison. Donc ce qu'on est content, c'est qu'il ne semble pas y avoir quelque chose derrière qui le bloque. Après, va-t-il pouvoir reprendre sa vie et de nouveau être avocat ? Ça, on n'en sait rien. Mais c'est juste pour rappeler qu'un pays, le Vietnam aussi, on voudrait bien qu'il y ait la fin des détentions arbitraires, le respect des engagements internationaux qu'a signé le Vietnam en matière de droits humains, la protection des militants et des journalistes qui osent parler. Donc continuez aussi à signer. Donc le petit article finit en disant que Dan Dinh Bar va nous remercier. Alors ça, franchement, on vous dirait, c'est pas le plus important, mais il donnera des nouvelles quand il aura récupéré et retrouvé un peu de vie normale.
Voilà.
On se bat ensemble, on gagne ensemble.
Bah, ce qui nous motive aussi, c'est qu'on reçoit quand même plusieurs fois dans l'année, on vous en parle de certaines dans nos émissions, effectivement, de ce qu'on appelle des bonnes nouvelles, libération de prisonniers d'opinion ou avancée de loi dans le bon sens par rapport aux droits dans certains pays. Pas suffisamment, et on a beaucoup plus de sujets d'inquiétude à l'heure actuelle que de satisfaction, mais des satisfactions et des bonnes nouvelles, on en a quand même, effectivement, faut pas non plus l'oublier. Ça, c'est important. Donc, et puis on va conclure l'émission qui va s'arrêter dans 2-3 minutes maintenant. On va vous souhaiter
un très bel été
à tous. Je vais juste faire, ça me revient à l'esprit, c'était pas du tout préparé, mais c'est pas grave. J'ai pu discuter celui d'avant, avec quelqu'un qui est iranien, qui réside en France depuis 2022, m'a-t-il dit. Qui était venu en France pour ses études, maintenant il travaille chez nous, et qui a parlé de... J'ai discuté assez longuement avec lui de la société iranienne, et lui, il m'a dit qu'il estime que au moins 80% de la société civile iranienne, et ça fait un lien aussi avec ce que Clarlys vous disait par rapport au massacre dans l'école dû au bombardement des États-Unis, 80% de la société civile iranienne n'attend qu'une chose, c'est le départ des ayatollahs, l'abandon de la République islamique, et qu'effectivement, pour eux, ça devient de plus en plus insupportable, et que vraiment, c'est quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur. Et lui m'a dit, à l'issue de la discussion, on a parlé ensemble pendant plus d'une heure, à l'issue de la discussion, je lui ai demandé s'il espérait un jour rentrer dans son pays, et il m'a dit, j'espère y retourner, mais je ne retournerai que quand l'Iran sera devenu une démocratie. Et en souriant, il m'a dit, mais inévitablement, ça arrive. Voilà. Donc c'est aussi un peu une voie d'espoir, même si on en est encore loin. Voilà. Mais donc c'est important de rencontrer.
Les droits humains, ils sont pas vraiment dans les accords.
Non, et puis Trump.
Pas du tout.
Trump et l'intervention en Iran, franchement, c'était pas pour sauver les Iraniens. Hein.
C'est clair. Ça, il m'a dit que ça avait aggravé la situation des droits humains chez lui. Ça, c'était lui, on est tout à fait convaincu.
Parce que ça a conforté le pouvoir qu'a
il est encore. Ils sortent encore.
C'est ça. Aux États-Unis,
ils sortent plus fort.
Ils sont un peu triomphants.
C'est ça. C'est eux qui mènent la.
Ça a aggravé le pouvoir, mais ça a aggravé aussi la révolte de la société civile contre leurs tortionnaires. Voilà.
Alors, on va dire à tout le monde alors un bel été. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore ?
C'est dommage, on n'a pas la chanson. Moi, je veux du soleil.
Ah, bah oui, j'ai pas pensé.
Non, mais
ça.
Peut-être que les gens vont trouver que c'est des fois un peu chaud. Peut-être pas,
oui, mais
peut-être
quand
pas
même,
la bonne chanson.
Cette chanson-là, moi, je l'aime bien.
On va leur dire. Et bien, d'être vigilant, de regarder le site d'Amnesty, d'aller signer toutes les pétitions.
C'est ça.
Voilà.
Il y a aussi des émissions.
S'informer.
Il y a aussi des émissions de. Je te coupe la parole. Non, mais il y a des émissions de podcast aussi sur le site d'Amnesty France.
Il l'a dit tout à l'heure.
Voilà.
Mais il ne l'a pas dit à la radio, c'était à nous.
Il y a toute une rubrique de podcast. Vous tapez podcast sur le moteur de recherche. Non, je ne crois pas l'avoir dit à l'entendre. Oui. Mais enfin bon, même si c'était une redite, ce n'est pas grave. Il y a toute une rubrique podcast sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr. N'hésitez pas à les écouter. Il y a même des émissions en podcast qui sont des émissions d'éducation aux droits humains pour bien comprendre ce que signifient nos droits dans les différentes rubriques. Droits des femmes, droits des LGBT, et il y en a plein d'autres.
Et parler d'Amnesty autour de vous. Parce
que tout à fait.
On mérite d'avoir un peu de publicité.
Tout à fait. Et un bel été à nos amis des antennes jeunes qui vont prendre la suite pour se mobiliser pour les droits humains dans les lycées d'Evreux à partir de la rentrée de septembre. On pensera bien à eux pendant tout l'été. Voilà. On se dit au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Rendez-vous le 15 septembre.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Charline, alors, votre sujet du jour est brûlant. Il y a des talibans à Bruxelles. La semaine dernière, la Commission européenne a invité une délégation...
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.